Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. Nanit Talani avec vous. Emmanuel Macron va rencontrer les présidents congolais et rwandais pour appeler à la fin des violences en RDC. La France organise des vols groupés pour les Congolais de la RDC en situation irrégulière à Mayotte. Premier maire de New York inculpé en fonction, Eric Adams plaide non coupable face à des accusations de financement illégal de sa campagne. Au Moyen-Orient, 8 soldats israéliens tués dans des combats avec le Hezbollah au Liban. Près de 40 ports américains paralysés par une grève des dockers. Quelles répercussions pour les importations maritimes ? La réponse dans notre section magazine. Notre page sportive nous en dira plus sur la fin du mandat d'Aliou Cissé à la tête des Lions de la Teranga. Et puis en écho, le Sénégal se positionne pour racheter la filiale locale de la Société Générale. Voilà donc pour le menu. Tout de suite, le journal. Le président français Emmanuel Macron doit rencontrer cette semaine ses homologues congolais et rwandais. Il entend les pousser à conclure un accord au plus vite pour mettre fin aux violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Les détails avec Mouamadou Oumfa.
Selon une source à l'Élysée, le président Macron recevra d'abord le Congolais Félix Tshisekedi vendredi, avant de s'entretenir avec le Rwandais Paul Kagame samedi, en marge du 19e sommet de la francophonie qui se tiendra au Grand Palais à Paris. Emmanuel Macron encouragera les deux parties à aboutir au plus vite à un accord dans le cadre du processus de Luanda pour que les combats dévastateurs dans le Nord Kivu prennent fin, a précisé cette source. Des combats qui opposent les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda selon Kinshasa ou FRDC, les forces armées congolaises. Le M23 s'est emparé depuis novembre 2021 de vastes pans de territoire dans l'est de la RDC, une région riche en minerais. La résurgence de cette rébellion a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Une demi-douzaine de cessez-le-feu et trêves ont déjà été décrétées mais n'ont été respectées que quelques semaines tout au plus.
Le gouvernement français annonce avoir ordonné des vols groupés pour rapatrier les ressortissants de la RDC en situation irrégulière dans l'est de Mayotte. Les détails avec Eddy Sango.
Le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, l'a annoncé hier. Il a instruit le préfet de Mayotte, archipel français dans l'océan Indien, d'organiser des vols groupés pour reconduire les ressortissants de la République démocratique du Congo dans leur pays. Il a aussi déclaré à l'Assemblée nationale, lors des questions au gouvernement, les vols de rapatriement visant les ressortissants étrangers en situation irrégulière et particulièrement ceux de la RDC seront organisés dès ce mois d'octobre. 4 vols groupés ont été organisés depuis février, selon l'entourage du ministre. Les autorités françaises rassurent que la coopération avec la RDC est tout de même excellente. Des centaines de migrants originaires des Grands Lacs, en particulier de la RDC, rentrent chaque année clandestinement à Mayotte après un voyage en barque appelé localement Kwassa depuis les côtes de l'Afrique de l'Est, de Madagascar ou des Comores voisines. Des collectifs qui demandent leur expulsion ont bloqué les principaux axes routiers de l'île principale l'année dernière. Des accords de sécurité bilatéraux avec les pays de la zone de l'Afrique des Grands Lacs, RDC, Burundi, Rwanda, Tanzanie, ont été signés pour arrêter les flux.
L'avocat américain Reid Brody a été interpellé au Tchad et expulsé vers Paris hier soir alors qu'il devait présenter son livre sur la traque de l'ancien président tchadien Hissène Habré. Arrivé à N'Djamena, il devait animer une conférence avec maître Jacqueline Moudeina en partenariat avec l'ambassade des États-Unis. Mais la police a dispersé les participants. Reid Brody, qui a joué un rôle clé dans le procès d'Abré, a été conduit à l'aéroport pour être renvoyé en France, où le président Mahamat Idriss Déby Itno se trouve pour un sommet et où il doit rencontrer Emmanuel Macron. Au large de Djibouti, au moins 75 migrants sont toujours portés disparus et 48 ont perdu la vie après que des passeurs encontraient 320 personnes à sauter à la mer depuis deux bateaux en provenance du Yémen. Les migrants, principalement éthiopiens, ont été forcés de nager en pleine mer, entraînant la noyade de nombreux passagers, dont un bébé de 4 mois. Washington a imposé des sanctions à 4 responsables de la police ougandaise en raison de leur implication dans des violations des droits humains, notamment la torture et des traitements inhumains. Les policiers Bob Kagarura, Alex Mwine, Eli Woumania et Amdani Twesigye sont interdits d'entrer aux États-Unis. L'opposant Bobi Wine salue ces sanctions, les qualifiant de rappel que la justice finira par triompher. Le gouvernement ougandais n'a pas encore réagi à cette annonce. Au moins 16 personnes sont mortes et plusieurs dizaines portées disparues à la suite du naufrage d'un bateau transportant près de 300 passagers dans le centre-nord du Nigeria, ont indiqué mercredi des responsables.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La grève des dockers américains est entrée dans sa deuxième journée à la suite de l'échec des négociations avec l'Alliance maritime des États-Unis. La grève a reçu le soutien d'autres groupes syndicaux et intervient alors que des responsables, y compris des leaders républicains de Caroline du Sud, exhortent le président Biden à intervenir en raison de l'impact de l'ouragan Helene sur les opérations portuaires. L'Alliance veut reprendre les négociations, mais refuse d'accepter des conditions préalables. Nous reviendrons sur les répercussions de cette grève des dockers pour les importations maritimes dans nos dossiers du jour. Le maire de New York, Eric Adams, inculpé pour corruption et financement illégal de campagne, est retourné mercredi au tribunal où les procureurs envisagent de nouvelles charges contre lui ou d'autres suspects. Les précisions avec Dilidico.
L'élu démocrate de 64 ans, qui pour l'instant exclut de démissionner, a levé les pouces devant les photographes à son arrivée puis à sa sortie du tribunal fédéral de Manhattan. Premier maire de l'histoire de New York, inculpé dans l'exercice de son mandat, il a plaidé non coupable vendredi de corruption et financement illégal de campagne, deux jours après l'annonce des poursuites décidées par un grand jury de citoyens. Ancien capitaine de police, Eric Adams est notamment poursuivi pour avoir reçu des cadeaux de la part de ressortissants turcs et d'avoir omis de déclarer ses gratifications, des voyages en avion, en classe affaires ou des séjours dans des hôtels. Lors de l'audience mercredi, l'un des procureurs, Hagan Skotten, a prévenu qu'il est probable que d'autres suspects soient inculpés dans cette affaire. Il a aussi fait savoir que des poursuites supplémentaires contre Eric Adams sont possibles. L'avocat d'Eric Adams, Alex Spiro, qui a déposé un recours pour faire annuler l'un des 5 chefs d'inculpation, a réclamé qu'un procès soit organisé avant mars pour qu'Eric Adams soit selon lui acquitté avant la prochaine primaire du Parti démocrate pour la mairie de New York. Le juge Dale Ho a réservé sa décision sur une éventuelle date de procès et a fixé une nouvelle audience de procédure au 31 octobre.
Des combats ont opposé mercredi les troupes israéliennes au Hezbollah dans le sud du Liban, où Israël a annoncé la mort de 8 soldats, les premiers tués depuis le début de ses opérations terrestres lundi contre le mouvement islamiste soutenu par l'Iran. Le point avec Rosine Munezero.
Après une semaine de bombardements israéliens massifs sur des bastions du Hezbollah à travers le Liban, l'Iran a lancé mardi sa deuxième attaque directe contre Israël, qui a promis de riposter. Environ 200 missiles ont été tirés, dont un grand nombre ont été interceptés par le système antimissile, a indiqué l'armée israélienne, qui a bénéficié du soutien des forces américaines et britanniques, selon le Pentagone et Londres. L'Iran a commis une grave erreur et en paiera le prix, a averti le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le président iranien Massoud Pezeshkian a de son côté promis une réponse plus forte en cas de représailles, tout en assurant que son pays ne cherchait pas la guerre. Le président américain Joe Biden a assuré mercredi que les États-Unis s'opposeraient à des frappes israéliennes contre des installations nucléaires iraniennes, après avoir la veille réaffirmé son plein soutien à Israël. L'escalade militaire entre Israël d'une part, l'Iran et le Hezbollah d'autre part, fait redouter que la situation au Moyen-Orient ne devienne incontrôlable. Un an après l'attaque sans précédent menée par le Hamas, allié du Hezbollah, sur le sol israélien, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza le 7 octobre 2023.
En Haïti, l'unité de lutte contre la corruption a recommandé des poursuites contre 3 membres du conseil de transition, Louis-Gérald Gilles, Smith Augustin et Emmanuel Vertilaire, pour abus de fonction et corruption. Ce rapport a été remis à la justice, érodant la crédibilité du conseil établi après la démission du Premier ministre Ariel Henry face à la violence des gangs. Voilà pour l'actualité. Vous suivez les informations sur VOA Afrique et voaafrique.com. Après ce tour d'horizon de l'actualité, tournons maintenant notre attention vers le segment économique. Nous laissons la place à John Lindon.
Alors que la Société Générale poursuit son plan de désengagement de plusieurs marchés africains, l'État du Sénégal se positionne pour racheter sa filiale locale. Une transaction valorisée à un peu plus de 287 millions de dollars selon Africa Intelligence. Si l'opération se conclut bien, la banque pourrait, selon l'agence Ecofin, être pilotée par la Banque nationale pour le développement économique ou un consortium national dirigé par celle-ci. Le Rwanda a envoyé ses premiers produits à destination du Ghana dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Cet envoi de produits a eu lieu le 25 septembre dernier selon un communiqué publié sur X par le ministère rwandais de l'Agriculture. OpenAI a annoncé mercredi avoir 7 milliards de dollars, renforçant le statut du créateur de ChatGPT comme star de la Silicon Valley et acteur incontournable de l'intelligence artificielle générative. Cette levée de fonds de 6,6 milliards de dollars fait d'OpenAI l'une des 3 plus grandes startups non cotées au monde, selon Bloomberg, aux côtés de SpaceX, le groupe d'exploration spatiale d'Elon Musk et du géant chinois du divertissement ByteDance, propriétaire de l'application TikTok.
Merci John pour ces informations économiques. Place à présent à l'actualité sportive présentée par Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba, bonjour à tous.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Fin d'aventure entre Aliou Cissé et les Lions de la Teranga.
Effectivement, Aliou Cissé n'est plus le sélectionneur du Sénégal. Arrivé à terme, le contrat du technicien sénégalais n'a pas été renouvelé par la ministre des Sports, Kadou Dien Gaye. Elle évoque, entre autres, la non-atteinte des objectifs assignés dans le cadre du contrat de renouvellement signé le 7 novembre 2022. Arrivé à terme le 31 août 2024, c'est-à-dire le sacre à la précédente CAN en Côte d'Ivoire et une qualification en quart de finale de la Coupe du Monde 2022. À la CAN en janvier dernier, le Sénégal a été stoppé en huitième de finale par le pays hôte et a été sorti à cette même phase battu par l'Angleterre 3-0 lors du Mondial Qatar 2022. Kadi Dien Gaye parle aussi de la régression de l'équipe nationale au classement FIFA et le risque de désaffection entre la sélection nationale et les Sénégalais.
Ici en NBA, Karl-Anthony Towns a été transféré au New York Knicks.
L'intérieur All-Star dominicain a été transféré des Minnesota Timberwolves aux New York Knicks. Les Wolves qui avaient atteint la finale de la conférence Ouest au printemps, où ils avaient été battus par les Dallas Mavericks, reçoivent en échange un autre intérieur All-Star, Julius Randle, ainsi que l'arrière Dante Vincenzo et l'ailier fort Keita Batres-Diop. Cet échange intervient comme une surprise alors que Karl-Anthony Towns, 28 ans, visage de sa franchise, avait été drafté en numéro 1 par les Wolves en 2015, disputant 9 saisons avec Minnesota pour 4 sélections au All-Star Game. L'équipe avait impressionné en play-off l'an passé en balayant les Phoenix Suns de Kevin Durant 4-0, puis en venant à bout du champion 2023 Denver en demi-finale de conférence.
Boxe pour terminer, World Boxing confie son programme antidopage à l'ITA.
World Boxing a conclu un accord avec l'Agence internationale antidopage pour qu'elle fournisse l'ensemble de ses activités antidopage, écrit dans un communiqué l'instance créée en 2023. World Boxing espère remplacer l'IBA en tant que fédération internationale de boxe au sein du mouvement olympique créé en 2018. L'ITA a pour but d'élaborer des programmes antidopage pour les fédérations sportives internationales ou les organisateurs de grands événements sportifs comme les JO ou d'autres organisations antidopage. Cette annonce intervient sur fond de guerre larvée entre le CIO et l'IBA, qui n'est plus considéré par l'instance olympique comme un partenaire crédible après des années de scandale.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Encore avec vous, Nanit Talani. Concentrons-nous à présent sur nos dossiers du jour. Depuis que les États-Unis ont achevé leur retrait militaire du Niger le mois dernier, le chef du commandement militaire américain pour l'Afrique a déclaré que Washington allait rester en Afrique de l'Ouest pour tenter d'aider les partenaires locaux à lutter contre la menace terroriste croissante dans la région. Dans une interview exclusive avec la correspondante de VOA au Pentagone, Carla Babs, le général Michael Langley, commandant de l'Africom, a fait part de ses inquiétudes et de ses espoirs quant à une lutte menée par l'Afrique contre le terrorisme islamique au Sahel.
La seule véritable réussite que j'ai constatée, c'est au Sahel, dans la région des trois frontières, au sein de la force multinationale conjointe avec le Cameroun, le Tchad, le Nigeria. Le Niger en faisait partie, mais il y a l'alliance avec les États du Sahel qui s'est concrétisée après le coup d'État.
Le sud de la Libye pourrait-il être une solution au problème du Sahel? Est-ce une solution potentielle que vous envisagez?
Nous avons fait évoluer la conversation. Cela relève beaucoup du domaine diplomatique. Nous nous engageons avec les deux entités militaires, les dirigeants du GNU et de l'ANL, parce que nous avons besoin d'unité. Une unité afin que nous puissions pleinement soutenir le renforcement de leur capacité à lutter contre le terrorisme, tout ce qui émane du Sahel. Nous avons besoin qu'ils soient d'accord entre eux, qu'ils se concertent pour travailler ensemble en tant que force conjointe. Mais je veux vous dire qu'il y a un autre éléphant dans la pièce. Un éléphant dans ce pays, c'est la Fédération de Russie. Leurs activités ne tiennent pas compte du droit des conflits armés, des règles, des droits de l'homme. Nous voulons être leurs partenaires privilégiés. Nous ne leur disons pas de choisir. Le GNU et l'ANL comprennent qu'ils ont choisi de travailler avec nous. Nous n'en sommes qu'au premier stade, mais ils doivent sortir de l'impasse politique dans laquelle ils se trouvent entre l'Est et l'Ouest. Et notre département d'État travaille à cet effort.
Quelle est la taille du contingent africain de la Russie?
Je ne connais pas le nombre exact qu'ils ont introduit au Mali. Ce sont des chiffres limités au Burkina Faso et en Libye. Il s'agit de centaines de personnes, je dirais. Ce n'est pas un grand contingent pour l'instant.
C'était le général Michael Langley, commandant de l'Africom.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le 100e anniversaire de l'ancien président américain Jimmy Carter survient alors que les auteurs et les historiens réévaluent ses réalisations et ses échecs en tant que président américain d'un seul mandat. Kane Farabo de VOA en dit plus sur l'héritage du premier président centenaire. Le récit est d'Antoine Boulamba.
Lorsqu'il est retourné à plein en Géorgie en 1981, l'ancien président démocrate Jimmy Carter a été battu, rejeté par les électeurs lors d'une élection écrasante contre le républicain Ronald Reagan.
Au pouvoir, il a été un échec politique, mais il a été un succès substantiel et visionnaire.
L'auteur et historien Jonathan Alter reconnaît ce que beaucoup connaissent aujourd'hui sur Carter, le travail humanitaire avec son centre Carter, la lutte pour la paix, la lutte contre la maladie et la construction de l'espoir dans le monde entier.
Il a fait un travail formidable en supervisant les élections dans plus de 100 pays. Mais les anciens présidents n'ont pas autant de pouvoir que les présidents. Et la liste de ses réalisations en tant que président, qui ont été ignorées, minimisées ou complètement oubliées, était très longue.
La crise des otages en Iran, la hausse de l'inflation et les embargos pétroliers des années 70 a condamné le mandat de Carter à la Maison-Blanche, jetant une ombre sur son héritage. Cependant, la biographie d'Alter sur Jimmy Carter, Is the Very Best, est l'une des nombreuses qui conclut que ces quatre années à la Maison-Blanche ont été tout sauf un échec.
Les accords de Camp David et l'ouverture de relations avec la Chine, mais une longue série de réalisations législatives sur l'environnement et de nombreuses autres questions.
Carter a signé l'Alaska National Interest Lands Conservation Act en 1980, protégeant plus de 40,5 millions d'hectares, qui, selon Alter, est maintenant considéré comme l'une des lois environnementales les plus importantes jamais adoptées.
Je pense que nous nous souviendrons du président Carter comme d'un président qui a servi dans des moments extrêmement difficiles, qui a dû faire face à des circonstances bien au-delà de son contrôle.
Joe Crespino, professeur d'histoire Jimmy Carter à l'université Emory, dit que Carter rencontrait régulièrement ses étudiants à Atlanta pour discuter des bonnes et des mauvaises décisions qu'il prenait lorsqu'il était président.
Mettre les droits de l'homme au cœur de la politique étrangère américaine, aucun président n'avait fait cela de manière dont Jimmy Carter l'avait fait. Et ce fut un moment important dans le changement de l'équilibre des forces dans la guerre froide.
Selon Crespino, certaines des réalisations nationales négligées de Carter comprennent la réorganisation du gouvernement fédéral et la déréglementation des industries du transport aérien, du camionnage et de la bière.
Nous associons souvent une sorte de libération de l'économie de la libre entreprise au tournant conservateur qui s'est produit avec Ronald Reagan, alors qu'en fait, Jimmy Carter, avant Reagan, faisait déjà beaucoup de travail de déréglementation.
Membres du cabinet de Carter, y compris l'ancien ambassadeur aux Nations Unies, Andrew Yang, sont reconnaissants que Carter ait vécu assez longtemps pour assister à des interprétations plus aimables de son héritage.
Il n'y a aucun endroit au monde que je connaisse où les gens n'ont pas de bonnes choses à dire sur lui, qu'il ait réussi ou non.
Le monde continue de bénéficier du travail du centre Carter, lutter contre des maladies comme le ver de Guinée, qui n'est plus que de quelques cas en Afrique et pourrait devenir la deuxième maladie jamais éradiqué.
Les dockers sont en grève depuis mardi dans près de 40 ports de la côte est et du sud des États-Unis par lesquels transitent habituellement environ la moitié des importations maritimes en Amérique du Nord. Quelles conséquences pour le commerce international ? Eric Manirakiza a joint à Annapolis, dans l'État du Maryland, Shuman Kamala, mécanicien et transporteur international.
Ça m'a mis en retard parce que je dois choisir, j'ai le conteneur à faire, j'ai le business à faire, les gens ne viennent pas avec les clients, je perds mes clients. National, c'est un peu lent, c'est devenu même plus lent. Les gens n'ont pas d'argent maintenant, ils disent que ah, moi je devais faire ça avant de faire ça. International, il y a des clients qui prennent les affaires au pays, Cameroun, Guinée, Sénégal, tout ça c'est bloqué, rien ne marche avec nous.
Et vous ne savez pas quand la grève va s'arrêter?
Ah non, pas encore. Même hier j'ai appelé, mais les gens ils disent que ils ont sous ça, mais il n'y a pas un temps définitif pour l'instant.
Et quelles sont les conséquences financières?
À la conséquence financière, ça ralentit sûrement les affaires, c'est tout. Ça ralentit les affaires. Mais si les clients ne viennent pas, comme ils devaient venir, ils ne peuvent rien compte. Donc, ça décélère tout. Tout est à moitié bloqué maintenant, là.
Est-ce que c'est une grève qui vous a surpris ou vous étiez averti?
C'est pas averti comme quelqu'un t'avertit que deux jours, trois jours, ça va arriver. C'est comme ça, prompt. Le matin, j'ai appelé, je voulais changer un conteneur. J'appelle, on me donne le numéro, mon gars va au port. Il me dit, on me dit de ne pas sortir le conteneur parce que la grève va commencer et on ne sait pas quand ça va finir. Et quand ils sortent le conteneur, deux jours, trois jours, ça va être après trois jours, ils vont commencer à te charger, c'est la conséquence. Donc, on a arrêté. Ça fait depuis je devais charger depuis le 25 jusqu'à aujourd'hui, je suis là, il n'y a pas une bonne nouvelle.
Monsieur Schumann, si vous estimez des pertes financières, vous avez des employés à peut-être payer. Est-ce que vous les avez mis en chômage?
Mais chômage, on ne les met pas en chômage. Comme nous, là, moi, par exemple, on se débrouille autrement. On a dit qu'il n'y a pas de travail. S'il n'y a pas de travail, ils vont se débrouiller parce qu'ils ne peuvent pas savoir s'asseoir comme ça. Ils doivent payer les factures et autres. Mais si tu n'as rien à les offres, ils ne peuvent pas rester avec eux. C'est toujours comme ça. On n'a pas le choix.
Et voudriez-vous nous parler de votre business? Qu'est-ce que vous faites normalement?
Moi, normalement, je fais la mécanique. Moi, je fais la mécanique et la peinture, la mécanique des motos et voitures, l'électricité et autres. Mais la plupart de mes clients sont les Africains. Ils font ses affaires à l'intérieur et à l'extérieur. Ils changent les machines, ils envoient les marchandises à l'extérieur. Ils ont l'argent, ils viennent, ils travaillent, ils me payent. Moi-même, quelquefois, je fais ça, je change le conteneur pour avoir au pays. Mais tout ça, c'est bloqué maintenant. Ça fait deux semaines comme ça, on ne fait rien, on est assis ici comme ça. Les clients viennent, maman.
Shuman Kamala, mécanicien et transporteur international, joint à Annapolis dans l'État du Maryland, ici aux États-Unis.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
voaafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
Reporters sans frontières a lancé lundi une plateforme Internet destinée à informer et agir contre les mécanismes de propagande et de désinformation à travers des enquêtes, des analyses géopolitiques et des interviews d'experts internationaux. Selon RSF, la plateforme va se focaliser dans un premier temps sur la propagande russe avant d'être élargie à d'autres acteurs. Pour plus de précisions, Mohamedou Oumfa a joint à Paris en France Anne Bokande, directrice éditoriale de RSF.
Le Propaganda Monitor, c'est un observatoire en ligne. C'est une initiative pour révéler, plaider et agir sur les mécanismes de la propagande et de la désinformation avec la contribution à la fois des équipes de Reporters sans frontières à l'international, c'est un réseau aussi de 150 correspondants et puis aussi avec la contribution d'experts sur le sujet. Nous avions à cœur de faire un focus spécifique sur cet enjeu phare de notre temps en matière d'information, en matière de journalisme aussi.
La plateforme va se focaliser dans un premier temps sur la propagande russe. Que mettez-vous dans propagande russe et pourquoi est-ce une priorité pour RSF?
Alors, la propagande, tout d'abord, qui nous intéresse au sens large, c'est celle qui prend les atours, les visages, en tout cas du journalisme, à des fins idéologiques, donc qui détourne les codes du journalisme, les codes des médias à des fins idéologiques. Donc c'est une des pratiques de la répression russe, puisque par ailleurs, dans le travail de RSF, dans la promotion de la liberté de la presse, la valorisation de la liberté de la presse, on a aussi été amené à documenter et à agir sur toute la répression que le Kremlin peut exercer sur les médias indépendants sur son sol, qui contraint donc des médias à la fermeture, des journalistes à l'exil, tous qui ont un discours critique, qui produisent une information fiable. Et concomitamment à cette répression, la Russie exporte une idéologie qui sert ses intérêts à elle et qui prend un visage parfois médiatique, journalistique. Donc on pense notamment à des chaînes comme RT, qui est un organe d'influence d'État, qui opère donc dans un contexte autoritaire, qui est financé intégralement par le Kremlin et qui se diffuse à l'international, et ce malgré d'ailleurs des sanctions, notamment à l'échelle européenne. Mais évidemment, on sait que le phénomène ne se limite pas au Kremlin. Et évidemment, on est amené à travailler et à déjouer les mécanismes de la propagande au sens large, où qu'elle soit, et par quelques acteurs qu'elle soit.
Justement, j'allais vous demander si le lancement de cette plateforme n'est pas l'une des manifestations de la bataille géopolitique qui oppose la Russie à certains pays occidentaux.
Le lancement de cette plateforme, je dirais, c'est d'abord une manifestation des défis qui se posent aujourd'hui pour l'information et pour le journalisme. Comment se repérer face à des discours polarisés ou relativistes? Est-ce que tout ce qui circule sur les réseaux sociaux est d'égale fiabilité? Qu'est-ce qui garantit la fiabilité de l'information? Pour nous, c'est important d'abord de prendre en main ce défi qui est posé aujourd'hui, et parce que aussi défendre le journaliste, c'est de pouvoir reconnaître quand il est détourné. C'est ce qu'on constate partout à travers le monde, qu'aujourd'hui, le Kremlin use des codes journalistiques, des codes médias, pour diffuser une idéologie qui va surfer sur un narratif en effet très géopolitique, anti-américain surtout en Amérique latine, anti-français ou anti-occident notamment en Afrique, pour in fine produire en tout cas des contenus qui au final ne servent qu'une seule idéologie.
Anne Bokande, directrice éditoriale de RSF. C'est ici que nous concluons cette édition du Monde aujourd'hui. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez à l'écoute pour plus d'informations et d'analyses sur VOA Afrique. Au micro, Nanit Talani. À la réalisation, Firmé Max Koyaweda. À la technique, Kelvin Fowler. Au nom de toute l'équipe de VOA Afrique, je vous souhaite une excellente journée.